Europe Midi, Patrick Cohen.
Bonjour et bienvenue, il est midi et demi. Déconfinement étape 3 demain, restaurants, bars et salles de sport en accès libre et réouverture des frontières aux touristes étrangers. Nous verrons que la concurrence s'aiguise en Europe du Sud sur le mode « venez bronzer cet été chez nous ». Un déconfinement sans risque, le virus en tout cas continue de refluer. Au sommaire également, de nouvelles règles pour le don du corps à la science, promesse de la ministre Frédérique Vidal après le scandale de l'université Paris-Descartes et le tennis à Roland-Garros. Le programme des premiers quarts de finale aujourd'hui, Medvedev contre Tsitsipas. Invité d'Europe Midi, les journalistes Ariane Chemin et Marie-France Etchegouin qui signent Raoult, une folie française chez Gallimard. Portrait étonnant d'un homme qui a marqué la crise sanitaire, qui a troublé le débat scientifique et politique. Et ça n'est pas fini.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Demain, déconfinement niveau 3, réouverture de tous les cafés et restaurants, des salles de sport, des salons, des foires d'exposition, télétravail assoupli, couvre-feu décalé à 23h et touristes étrangers à nouveau admis. À l'annonce de cette échéance fin avril par Emmanuel Macron, les épidémiologistes avaient exprimé prudence ou réserve. Le virus aura-t-il suffisamment reflué ? Aujourd'hui, la réponse est oui, Victor Delande. La baisse reste forte. La France devrait tomber à moins de 5000 cas par jour avant la fin de la semaine.
Oui, tous les indicateurs sont au vert avec 6600 nouveaux cas par jour en moyenne sur la dernière semaine. La décrue de l'épidémie se poursuit et selon les projections des modélisateurs, on devrait même repasser sous la barre des 5000 infections quotidiennes avant la fin de la semaine. Ce seuil, rappelez-vous, il avait été fixé par Emmanuel Macron pour sortir du deuxième déconfinement. On n'y était jamais arrivé. Nous voilà désormais revenus à des niveaux comparables à ceux de septembre dernier. Les effets du dernier confinement, les gestes barrières suffisamment appliqués et certainement le climat moins avantageux pour le développement du virus. Voilà les raisons de la décrue qui va même plus vite que ce qu'espéraient les scientifiques. C'est ce qu'a affirmé ce matin le président du conseil scientifique Jean-François Delfraissy. Ce dernier est plutôt confiant pour cet été quand il regarde aussi la dynamique actuelle de la vaccination. Il appelle néanmoins les Français à être raisonnables, dit-il, pour cette nouvelle phase du déconfinement et à maintenir les gestes barrières, y compris le port du masque à l'extérieur jusqu'au 30 juin. Après cette date, conclut-il, il sera très difficile de garder cette protection sur le visage.
Un département fait l'objet d'une attention particulière, les Landes, où des moyens nouveaux sont déployés.
Oui, des nouveaux moyens pour contrer le variant indien, désormais appelé le variant Delta. Sur place, les autorités pratiquent ce qu'on appelle le rétro-tracing ou le traçage à la japonaise. C'est en fait l'inverse de ce qu'on fait depuis le début de l'épidémie en France. Plutôt que de localiser toutes les personnes qu'un patient positif a pu contaminer, on cherche en fait à remonter au moment où lui-même a été infecté. En déterminant les circonstances de la contamination, on se donne les moyens de détecter les événements très propagateurs et donc un nombre plus important de personnes contaminées. Et cette technique s'avère efficace puisque la situation est sous contrôle selon les autorités. 31 cas de variant indien avérés, des suspicions sur d'autres cas qui sont actuellement disséqués, séquencés. Et dans les deux régions où un signal d'alerte avait été enregistré, la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie, le taux d'incidence, ça y est, repart à la baisse.
Victor Delande, les gérants de salles de sport se préparent donc à rouvrir, mais avec une pointe d'inquiétude, Benjamin Péter, les habitués reviendront-ils nombreux pour soulever de la fonte ?
Oui, parce qu'on en a tous fait l'expérience. Le sport, c'est d'abord une histoire de motivation. Alors, tout est prêt. Hein. Ici, les protocoles ont été mis en place. Sens de circulation, masque entre les machines, vestiaire et douche à la demande, des visières, même pour tout ce qui est cardio, une demi-jauge sur toute la salle, sur rendez-vous. Un dispositif lourd mais nécessaire pour Stéphane Le Floch, le gérant de cette salle à Balma, qui est conscient que la reprise sera lente.
On n'est ni un restaurant ni un bar. Quoi. Voilà, on va réouvrir les portes. Le retour va se faire très progressivement. Peut-être que nos adhérents auront aussi d'autres centres d'intérêt, d'autres priorités. Donc, on va le découvrir. Hein. Les aides d'État nous ont permis, certes sous perfusion, mais de tenir. Je pense que la véritable échéance, c'est maintenant. Je table sur un an et demi pour avoir retrouvé une fréquentation, on va dire, normale.
Alors, les adhérents ont pu aménager leurs abonnements tout au long de l'année, mais pour Vincent Olivier, le directeur du développement du réseau L'Orange Bleu, qui compte 400 salles en France, c'est à la rentrée de septembre que beaucoup va se jouer.
Certains ont stoppé leur abonnement et le but, c'est qu'ils le reprennent, soit en confiance avec tous nos protocoles de sécurité. Aujourd'hui, 92% de notre réseau à une trésorerie armée pour tenir justement le temps de retrouver le chiffre d'affaires antérieur. Et on a 8% sous surveillance.
Et c'est la raison pour laquelle ils espèrent bénéficier d'une certaine dégressivité des aides de l'État pour assurer la survie des salles de sport les plus fragiles.
Benjamin Péter, Europe 1 à Toulouse. Toulouse. Les touristes étrangers seront donc de nouveau admis demain avec un pass sanitaire, vaccin ou test. Ouverture des frontières qui sera bienvenue pour le secteur touristique. Mais la France n'est pas la seule. Carole Ferry, les pays d'Europe du Sud rivalisent pour attirer le touriste cet été.
Oui, vous avez l'Espagne par exemple qui a annoncé ouvrir ses frontières à toutes les personnes vaccinées. Et c'est loin d'être le cas partout. Tant qu'on n'a pas de pass sanitaire européen, il faut souvent un test PCR en plus du vaccin. Eh bien, pas en Espagne donc. Et si vous n'êtes pas vacciné, eh bien un test antigénique suffit. Et comme ils sont moins chers que les PCR, eh bien c'est un argument de plus pour les ressortissants des pays dans lesquels les tests sont payants. La Grèce a besoin également de redynamiser son économie touristique. Pour ça, elle a créé le concept d'île sans Covid. Une quarantaine d'îles grecques dans lesquelles tous les habitants ont été vaccinés. Alors ce n'est pas terminé toutefois dans les plus prisés comme Mykonos, Santorin ou Paros. Une idée reprise par l'Italie. Tous les habitants de Capri ou de Procida dans la baie de Naples ont été vaccinés. Enfin, à Malte, le gouvernement offre jusqu'à 200 euros de subvention aux touristes étrangers. Alors attention, ce n'est pas un bon cadeau, c'est une réduction sur les chambres d'hôtel des 3 nuits sur place. Et pour en profiter, il faut appeler directement les hôtels sans passer par les plateformes de réservation.
Carole Ferry, une panne mondiale d'Internet, en tout cas ça y ressemble. Les sites de grands médias à travers le monde sont en ce moment rendu inaccessible. New York Times, Le Monde, la BBC, Le Guardian, le Financial Times, la plateforme Reddit. Et à l'instant, on nous dit que le site internet du gouvernement britannique est lui aussi inaccessible. À chaque fois, le même message d'erreur, erreur 503 ou service inaccessible, unavailable. C'est ce qui s'affiche quand on essaie d'accéder à ces sites. Pas d'explication, pas de cause connue pour l'instant.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Dans un instant, la suite de nouvelles règles pour le don du corps à la science.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Atteinte à l'intégrité d'un cadavre. Voilà le chef de mise en examen que vient de subir l'ancien président de l'université Paris-Descartes, Frédéric Dardel. Il y aura sans doute d'autres poursuites après la découverte d'un charnier dans ce qu'on appelait le Temple de l'anatomie française, fondé en 1953 et qui accueillait chaque année plusieurs centaines de corps. Aujourd'hui, la ministre Frédérique Vidal annonce qu'elle veut changer les règles sur le don du corps. Virginie Riva.
Oui, tout sera précisé par voie réglementaire après adoption du projet de loi bioéthique. La priorité absolue, dit la ministre, c'est de recueillir un consentement éclairé du donneur et de sa famille, avec notamment une charte qui expliquera en quoi consiste donner son corps, comment le corps sera conservé, ses différentes utilisations, comme par exemple la formation des élèves en anatomie ou en chirurgie, et à côté, un formulaire de consentement mieux rédigé. Deux problèmes se posent actuellement, explique la ministre, le manque de temps laissé à la famille pour faire son deuil, et si le formulaire n'a pas été bien renseigné, les cendres du défunt qui ne sont pas rendues à sa famille après utilisation de la dépouille, ce sera modifié. Deuxième axe, la ministre le dit, l'utilisation des corps doit être réservée à la recherche et à la formation et non à des fins commerciales. Donner un corps à l'industrie restera néanmoins possible, explique-t-elle, s'il y a convention signée entre une industrie et un centre de don. Mais dans ce cas-là, cela sera soumis à une autorisation spécifique délivrée par le ministère. Enfin, la ministre le rappelle, gratuité totale du don, la famille ne devra plus s'acquitter d'une partie des frais d'acheminement. C'était le cas selon les centres de don.
Un terrible parricide dans le Morbihan où un adolescent de 17 ans a tué son père à coups de couteau avant de diffuser la scène sur les réseaux sociaux. Le garçon qui a été mis en examen et écroué a expliqué aux gendarmes qu'il avait voulu mettre un terme aux violences que son père infligeait à sa mère sous l'emprise de l'alcool. Déjà 2 mois que le journaliste Olivier Dubois a été kidnappé au Mali, son comité de soutien et Reporters sans frontières appelé à une mobilisation ce matin, place de la République. À Paris, il y avait environ 300 personnes et c'était en présence d'ex-otages dont la journaliste Florence Omnas.
D'une certaine manière, je fais partie de ce terrible club des ex-otages, s'entend, c'est-à-dire ceux qui ont eu la chance de sortir. Et je pense que cette chance, il faut la donner à Olivier. Et la mobilisation en ce sens est particulièrement importante. C'est un message d'espoir et c'est de dire, tous ensemble, on peut arriver à le faire sortir. C'est pas facile, ça peut prendre du temps. Les choses sont de plus en plus compliquées et de plus en plus complexes. Hein. Un otage aujourd'hui n'est pas un otage dans les années 80, donc c'est beaucoup plus difficile. Et à la fois, on l'attend. Si on est là, c'est qu'on pense qu'il va être là un jour avec nous pour dire, voilà, je suis de retour. Vous savez, les ravisseurs, leur grand argument pour vous casser le moral et vous maintenir entre leurs mains, c'est de dire, chez toi, tout le monde s'en fout. Tout le monde t'a oublié. personne ne pense plus à toi, de toute façon c'est fini, tu vas passer sur Internet et on va t'exécuter en direct. Donc ça c'est vraiment très important, s'il arrive à entendre ce qu'on est en train de faire pour lui, c'est fondamental. Ce moral-là, il est primordial quand on est enfermé. Et j'espère qu'il nous entend. Olivier, tu nous entends, j'espère bien.
Florence Omnas au micro de Jean-Jacques Herry, le tennis.
Europe 1, radio officielle de Roland-Garros.
Corinne Boulou, on rentre dans le dur cet après-midi avec une affiche plutôt relevée entre Medvedev et Tsitsipas.
Oui, les choses sérieuses commencent, hein, Patrick, puisque nous connaîtrons aujourd'hui l'affiche des premières demi-finales. Et c'est vrai que si dans le tableau féminin, aucune des joueuses en présence aujourd'hui n'a encore connu le bonheur de se hisser dans le dernier carré d'un tournoi du Grand Chelem, ce n'est pas le cas dans le tableau masculin. L'affrontement ce soir, pour la dernière fois ici à huis clos, entre le numéro 2 mondial Daniil Medvedev et le 5e mondial Stefanos Tsitsipas, demi-finaliste ici l'an passé et vainqueur à Monte-Carlo, suscite évidemment l'intérêt. En janvier, les deux joueurs s'était joué en demi-finale de l'Open d'Australie et c'est le Russe qui s'était imposé. Medvedev qui réalise son meilleur parcours à Roland-Garros alors qu'il disait ne pas aimer la terre battue. Notre consultant est d'ailleurs séduit par le plus francophone des Russes, Cédric Pioline.
Il est adorable, il est génial, j'aime bien aussi comment il joue, mais il a parfois l'esprit qui, comme on dit, c'est les montagnes russes, ça monte, ça descend. Et l'année passée, il avait plutôt bien joué sur terre battue, sauf à Roland-Garros, puisque rappelons-le, c'est la première fois qu'il passe un tour ici à Paris. Mais c'est vrai que c'est dans son tempérament, donc il n'y a pas de raison qu'il joue mal sur terre battue. Il est en train vraiment de nous le montrer pour cette quinzaine.
Nous verrons cela ce soir. Le Russe qui s'entraîne d'ailleurs en France. Pour l'heure, le premier quart de finale oppose en ce moment deux joueuses qui disputent pour la première fois un quart de finale en tournoi du Grand Chelem. La Slovène Didancek, 85e mondiale, à l'Espagnol Badoza, 35e.
Merci Corinne. Le temps. Anissa Dadi, toujours un temps instable dans l'Est.
Oui, ça dure, hein, malheureusement, sur la Lorraine, l'Alsace. Les averses restent très présentes encore toute la journée. Sur toute la façade est du pays, de l'Alsace jusqu'à la Corse, en passant par le Lyonnais, la Côte d'Azur, les Alpes, les averses de ce matin sont en train de devenir orageuses. De la Franche-Comté au Lyonnais, il pleut, avec des orages cet après-midi, principalement en montagne, mais l'ambiance est quand même assez électrique. Sur les côtes de la Manche, nous avons des nuages bas qui ont du mal à se dissipé et partout ailleurs il fait beau. L'été est en train de s'installer tout doucement sur le pays, ça fait du bien. Les températures, elles sont plus fraîches sur la moitié nord que sur la moitié sud. On aura 17 degrés à Dunkerque, 20 pour Saint-Brieuc, 22 à Brest, 23 à Metz, 24 pour Clermont-Ferrand. Il fait plus chaud ailleurs, 26 degrés à Lyon et Biarritz, 27 à Paris, 28 pour Toulouse et Rennes, 30 degrés à Avignon et 31 la maximale pour Nîmes. Patience si vous nous écoutez dans l'Est, le soleil pour vous arrive jeudi. Allez, on tient bon.
Patience. Merci Anissa.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Didier Raoult suscite les passions. Il fait l'objet d'un portrait dépassionné, mais très bien informé. Marie-France Etchegouin et Ariane Chemin, ses auteurs, sont nos invités dans un instant.
Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen.
Il a convaincu deux présidents, Trump et Bolsonaro. Il a fait venir un troisième dans son bureau, Macron. Il a pris le contre-pied des autres scientifiques et des autorités de santé sur à peu près tous les aspects de la crise du Covid. Les études randomisées, les remèdes, le confinement, les masques, les vaccins. Il est aujourd'hui très seul, mais non sans soutien populaire et toujours sûr de son fait. Voici donc quelques clés du mystère Raoult dans un livre-enquête signé Ariane Chemin et Marie-France Etchegouin. Bonjour.
Bonjour.
Raoult, une folie française chez Gallimard, ça n'est pas un pamphlet, pas non plus un livre scientifique, c'est un récit de crise et un portrait nourri aux meilleures sources, dont Didier Raoult, qui vous a ouvert les portes de son IHU. C'est comment ? Ça ressemble à quoi ?
Bah c'est, l'IHU, c'est d'abord un endroit qui a été vanté avant son ouverture comme étant un temple du microbe. Enfin, c'est vrai qu'on s'attendait à rentrer pratiquement à la NASA, quoi. Bon.
Or, non,
c'est, y a effectivement des labos de haute sécurité dont Didier Raoult est très fier, qu'on a visité, etc. Et au premier étage, plein de gens qui viennent se faire soigner ou qui viennent se faire tester et qui, pour la plupart, tous même portent des masques. Ce qui n'est pas forcément le cas aux étages.
Alors, donc, dans les étages, oui, dans les bureaux, et là où Didier Raoult a son bureau, bureau, oui, c'est beaucoup plus...
Mais il y a du gel partout, il a toujours cru que la transmission du virus se faisait davantage par les mains. Mmh. Des masques, beaucoup moins, surtout c'est pas du tout aéré, c'est vrai que ce sont des lieux un peu aveugles, où les bureaux sont assez serrés, et effectivement le masque n'est pas la règle, parce qu'il a toujours pensé que la contamination par aérosol n'était pas la principale.
Voilà, je parle de ça, voilà, ça ressemble à un petit bout de lorgnette, mais il se trouve que l'Express a révélé hier que 7 personnes avaient été contaminées en 15 jours à l'IHU, dont un praticien hospitalisé et un technicien placé en réanimation. Et l'Express expliquait que les masques n'étaient pas vraiment portés, les gestes barrières pas tellement respectés dans l'entourage de Raoul. C'est ce que vous avez vu ?
Oui, on nous a reçus dans une petite salle à manger où on avait beaucoup de... C'est vrai qu'elle était aveugle, il y avait un distributeur de...
Ouais, c'était variable, certains le portaient et d'autres non.
Est-ce que Didier
Raoult...
En même
temps qu'il y a un cluster dans un hôpital, c'est pas non plus forcément totalement exceptionnel, oui, c'est arrivé ailleurs.
Oui, sauf que c'est à l'étage administratif, enfin celui de la direction de l'IHU. Est-ce que Didier Raoult et son équipe sont vaccinés ? L'Express racontait hier que certains de ses collaborateurs s'étaient fait vacciner en cachette pendant que le patron était parti au Sénégal.
Le papier de l'Express, c'est quand même beaucoup de propos anonymes. Nous, c'est justement, on a voulu faire tout le contraire dans notre livre, c'est-à-dire vraiment recroiser et croiser des sources. Mais c'est vrai que Didier Raoult dit que c'est une question de vie privée pour lui, donc il n'a jamais répondu.
Il n'a jamais répondu sur la vaccination.
Non, mais en général, quand on ne répond pas sur la vaccination, c'est qu'on a peur aussi de perdre des fans. J'ai remarqué souvent ça, parce qu'après tout, prendre de la chloroquine, ça pourrait relever de la vie privée. Là, il n'y avait aucun problème pour dire que beaucoup en prenaient et donner des noms. En revanche, effectivement, sur le vaccin, il dit « ça me regarde, c'est ma vie privée ».
Alors, Didier Raoult, c'est difficile de raconter son histoire, de faire son portrait sans rentrer dans les questions de psychologie. D'ailleurs, le sous-titre de votre livre, « Une folie française », Didier Raoult lui-même utilise souvent cette expression. Il est fou de faire une alerte mondiale parce que 3 Chinois meurent, il est fou de considérer l'hydroxychloroquine dangereuse, etc. Raoult, qui n'est pas homme à se renier ou à admettre une erreur de jugement, quitte à humilier ceux qui l'ont aidé. L'une des scènes que vous décrivez avec le professeur Delfrécy rabroué dans son bureau en présence d'Emmanuel Macron, cette scène est hallucinante.
Oui, on se souvient beaucoup de BFM tournant en boucle et des chaînes d'infos en continu qui montraient des ombres sur le toit de l'IHU. On savait pas très bien ce qui s'était passé dans ce bureau. Ben en fait, ça s'est pas bien passé du tout. C'est-à-dire que d'abord Emmanuel Macron a été obligé de convaincre Jean-François Delfrécy, le président du comité scientifique, de venir. Autant il n'était pas hostile au départ à Didier Raoult, il l'a même fait rentrer dans le conseil, mais autant il pensait que cette visite était pas du meilleur goût. C'est-à-dire que ça risquait de légitimer un traitement qui n'était pas testé par des études randomisées. Et ça se passe pas bien, parce que d'abord Didier Raoult parle tout le temps, et puis c'est vrai qu'il humilie et qu'il reprend à plusieurs reprises Jean-François Delfrécy. Non Jean-François, tu ne peux pas dire ça. Non Jean-François, tu te trompes. Et le président reste muet.
Voilà. Et sur l'accrochage que vous rapportez, c'est sur les études randomisées. C'est-à-dire que
et Delfrécy... le paradoxe, c'est que Jean-François Delfrécy, à l'époque, était encore au conseil d'administration de l'Institut Didier Raoult. Que c'est lui aussi qui l'a soutenu, en tout cas, quand il a eu le Grand Prix de l'INSERM, qui est une des plus hautes distinctions scientifiques françaises. Et c'est ça aussi qui nous a intéressé de raconter, c'est comment ce microbiologiste qu'on disait nobelisable... qui a, c'est vrai, à son actif tout un tas de découvertes, etc., va au moment de l'épidémie, alors que ça devait être son moment, qu'il avait son centre spécialisé dans les infections, etc., va adopter cette posture. C'est ça qui et c'est vrai que pour le comprendre, on est obligé, plus que pour d'autres histoires, de raconter le passé, de dire à Raoul comment il a été façonné, quels sont qu'est-ce qu'il a fondé et qu'est-ce qui fonde ce caractère très particulier.
Caractère très indépendant, fierté d'une lignée familiale qu'on ne va pas raconter ici en détail, faute de place, refus obstiné de se couler dans le moule, avec très vite, dès le début de la crise, un discours anti-élite qui séduit, qui le rend populaire, mais qui s'accompagne, et ça vous le montrez fort bien, d'une soif de reconnaissance éperdue par ces mêmes élites. Il cherche les marques de sympathie ou de soutien des grands patrons, des intellectuels, et il en est très flatté.
Oui, il accroche les portraits qu'il a fait avec tous les présidents de la République française dans son bureau. Il cherche la notoriété et d'ailleurs, avant d'autres, il comprend qu'il faut publier. Sinon, c'est la formule anglaise publish or perish, c'est-à-dire que sinon on meurt.
Publier ou périr.
Voilà, il cherche la reconnaissance, les décorations aussi. S'il décroche le portrait qu'il a fait avec Emmanuel Macron de son bureau, c'est parce qu'il n'a pas eu, lors de la dernière promotion de la Légion d'honneur, une médaille comme son ennemi Karine Lacombe. Donc oui, il est très sensible à ça.
Il est très sensible à ça. Aujourd'hui, tous ces soutiens-là se sont éloignés ou ont disparu. Restent les complotistes anti-masques ou anti-vaccins. Il ne le dira jamais, mais il est sans doute blessé ou par cette solitude, Marie-France Etchegoin.
Il dit qu'il ne la voit pas. Après, je ne crois pas qu'il reste que les complotistes et les anti-vaccins. Moi, je suis très frappée des réactions qu'on voit au livre, sur le livre, avec des gens qui ne sont pas forcément, enfin, en tout cas, qui ne se vivent pas comme complotistes et qui ont des arguments. C'est ça qui est très troublant. Mais c'est vrai que Raoult, il la joue anti-élite. En même temps, il est très élitiste. Hein. Il a toujours dit qu'il était le meilleur. Il n'a que mépris pour les non-spécialistes. Et donc, je pense qu'effectivement, c'est assez difficile pour lui de voir cette espèce de réaction totalement irrationnelle autour de lui. On le voit aussi, certains nous reprochent des deux côtés d'ailleurs, c'est très intéressant. Les anti-Raoult disent faut pas raconter sa vie parce que c'est humaniser Raoult, c'est quand même pas un monstre.
Pas tapé assez fort.
À travers, justement, on comprend à travers sa personnalité ce qu'il a cristallisé aussi tout un tas de mouvements qui travaillent l'opinion et bien avant le Covid. Donc c'est très intéressant de voir ce cocktail explosif entre une situation de crise et ce personnage si particulier. C'est le seul phénomène en France, c'est le seul cas, il n'y a pas eu d'autres cas comme ça. Du côté, en revanche, des pro-Raoult, il ne faut absolument pas toucher la statue.
Votre livre n'est pas un pamphlet et je pense que c'est ce qui fait justement son intérêt. Les camps les plus opposés pourront y trouver des informations et de l'intérêt. Est-ce qu'il a pris plaisir à vous raconter sa vie, à présenter la face la plus romanesque de son personnage, Ariane Chemin?
Quand on a terminé notre long entretien, il a dit, on l'a remercié de nous avoir accordé du temps, il a dit, vous savez que j'aime tellement parler de moi, en riant, il se moque lui-même. Ça c'est vrai que je pense que l'idée de s'inscrire dans une geste, dans une histoire, aussi bien littéraire, scientifique, cette passion qu'il a pour la généalogie, cet art qu'il a de se trouver des ancêtres lointains qui le rattachent à l'histoire française, ça c'est très important pour lui.
C'est très important. Quitte aussi à enjoliver un peu son histoire, parce qu'il n'a pas parcouru le monde pendant 2 ans sur un rafio, mais quelques mois sur un paquebot de luxe, par exemple.
Oui, ça avait aussi sculpté sa légende. On imaginait, en plus, avec son look une espèce de pirate, de loup des mers, partant sur un vieux cargo mazouté, pendant sa période rebelle. Il a eu une jeunesse et une adolescence très tourmentée. Il nous a même confié qu'il avait fait un simulacre de tentative de suicide.
Et il a fait médecine sur le tard.
Il a fait médecine sur le tard, c'était pas sa vocation au départ, il voulait être écrivain, il était DJ dans une boîte montée avec un copain, il nous a fini par nous dire qu'effectivement c'était sur un paquebot de croisière qui s'était engagé pendant 6 mois.
Et il a bien aujourd'hui, ce dernier détail des informations qu'il y a dans le livre, il a bien un buste à son effigie chez lui.
Oui, ça c'était effectivement, il a un buste à son effigie, une décoration là aussi totalement originale et kitsch. C'est Didier Raoult, des colonnades, des mosaïques, sa passion pour l'antiquité. C'est absolument ça, pas du tout dans le bon goût bourgeois, on va dire, mais il s'en fiche éperdument.
Raoult, une folie française chez Gallimard, Ariane Chemin, Marie-France Etchegoin. Voilà un tout petit aperçu des informations et du récit de cette folie, comme vous dites. Merci à vous.
Merci.
Europe Midi, Patrick Cohen.